12 novembre 1993, première conférence par le père Semel.
Je vais considérer que vous avez déjà fait au moins 3 ans de philo pour pouvoir avancer. D'abord pour situer la liturgie. Je vais commencer par un regard philosophique, puis ensuite on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut avoir commencer à travailler sur un regard théologique, sur le problème du chant dans la liturgie. D'abord, commencer par situer la liturgie dans l'approche philosophique. C'est la question de l'attitude religieuse de l'homme, et donc c'est la question de l'éthique religieuse, de l'éthique et de la politique religieuse, ou de l'intégration de l'attitude religieuse de l'homme au niveau politique. Puisque la liturgie, elle regarde à la fois, on va le voir, l'attitude religieuse et la communauté. Et on va voir quelle est l'attitude religieuse qui correspond à l'engagement de l'homme, puisque c'est ça que je regarde l'homme dans la liturgie, et pas la liturgie simplement comme telle. Regarder la liturgie uniquement comme telle, ça risquerait de la réduire à une œuvre. Là, je regarde, comme toujours en philosophie d'ailleurs, l'homme dans la liturgie. Parce qu'on est en éthique religieuse, on est au niveau d'un regard de sagesse. La liturgie ne peut pas s'élaborer sans un regard de sagesse, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre un acte communautaire, si vous voulez, un engagement communautaire. Il s'agit de mobiliser une communauté en vue de l'adoration. Et donc une chose est la recherche tâtonnante de l'adoration, ça peut se faire de manière personnelle, et j'allais dire ça ne nécessite pas d'être arrivé à un regard de sagesse. Je peux personnellement rechercher qui est Dieu et essayer dans ma prière personnelle humaine d'exprimer ce que je comprends de Dieu. Dès qu'il s'agit d'engager une communauté, je ne peux plus me permettre de tâtonner, parce que je ne peux pas me permettre d'engager une communauté entière sur des voies fausses. Et donc j'allais dire, la maîtrise ou la mise en œuvre d'une liturgie réclame une, non pas une maîtrise si vous voulez, mais un habitus de sagesse. C'est-à-dire une lucidité sur ce que je peux dire et ne pas dire de l'être premier, et sur ce qu'est l'homme dans la création, puisque c'est ça que je vais exprimer. Donc si je n'en ai pas un minimum de connaissances, je n'ai rien à dire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de liturgie. Mais toute expression dans la liturgie, surtout à cause des conséquences qu'elle a sur tous ceux qu'elle engage, réclame une rectitude de l'intelligence contemplative qui est celle du regard de sagesse. Troisième raison pour laquelle, j'allais dire, ce regard de sagesse est nécessaire, c'est que cette expression de ce que je comprends de Dieu, ou plus exactement de ce que je peux dire de sa manière d'être, et de ce que j'exprime de ce qu'est l'homme comme créature, va non seulement s'exprimer, on va le voir, par la parole, mais elle se manifeste aussi de manière pratique. C'est-à-dire que j'associe un comportement concret, des gestes concrets, une symbolique concrète, à un regard religieux. Et donc, je matérialise, oui, j'exprime sensiblement quelque chose qui relève de la sagesse, qui est évidemment extrêmement dangereux, et à la limite du possible. Donc j'allais dire, la liturgie est intrinsèquement dangereuse, parce que matérialiser ou rendre sensible ce qui relève d'une recherche purement contemplative et qui n'a plus rien à voir avec le sensible, est évidemment extrêmement dangereux. Et donc normalement, l'homme, celui qui dirige la liturgie ou celui qui s'y engage, doit toujours être lucide sur cet extrême danger qui est celui de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'identifier ce dont je veux parler, qui est le mystère de Dieu et le regard de l'homme à partir d'un regard de sagesse, de l'identifier à ce que j'exprime. Donc de confondre, vous voyez, la parole et la contemplation, de confondre le geste et la présence. C'est pour ça que la grande épreuve de la liturgie, c'est de réclamer un engagement religieux, donc un engagement dans l'adoration et évidemment aussi un engagement contemplatif, donc un engagement dans la recherche de la vérité, un engagement communautaire et puis un engagement artistique qui va faire le lien, on va le voir, entre l'attitude religieuse et la communauté. Parce qu'il s'agit de l'être premier et d'un regard de sagesse, l'art doit être porté à son plus haut niveau. Il n'est pas question non plus, on va le voir en éthique religieuse, de bricoler, c'est-à-dire qu'il faut que l'art ne peut pas se permettre de trahir ce qu'il veut exprimer. Donc l'art doit être un art d'élite au niveau religieux. C'est nécessairement un art extrêmement épuré. Je dois choisir, exactement comme dans l'attitude religieuse, je dois choisir ce qu'il y a de plus poussé dans la recherche de l'intelligence, de la même manière au niveau artistique, je dois nécessairement me servir de ce qu'il y a de plus parfait. La liturgie ne peut absolument pas, au niveau religieux, hein, se faire à la bonne grosse. Il n'en est pas question. C'est nécessairement idolâtrique. D'accord ? À cause du jugement de sagesse. Si je n'étais pas au niveau de la sagesse, je pourrais me permettre, si vous voulez, de faire les choses grosso modo. Alors, l'art à son plus haut niveau, c'est évidemment un art qui touche à la simplicité, mais aussi à la perfection. Et donc, la difficulté, c'est d'engager une qualité artistique la plus grande qui soit, d'engager la communauté le plus possible, et en même temps de disparaître devant l'adoration. Parce que ni la communauté ni l'art ne peut prétendre à la moindre adéquation à l'adoration. L'adoration n'a rien à voir avec l'art. Oui, parce que c'est un acte purement intérieur. C'est un acte qui implique un dépassement de toute image, donc de tout symbole, comme la contemplation religieuse. Donc la difficulté de la liturgie, c'est sa grandeur en même temps, c'est de mobiliser l'homme et la communauté dans toute sa sensibilité, dans toute son affectivité, et en même temps de s'effacer devant son acte d'adoration. Donc de hisser l'homme jusqu'à l'adoration, mais de disparaître devant l'adoration. Parce que, ou bien la liturgie, j'allais dire, est d'une moindre qualité artistique et communautaire, et elle ne mobilise pas l'individu, au contraire, elle l'alourdit, et donc elle ne facilite pas son acte d'adoration, ou bien elle est d'un enthousiasme, si vous voulez, d'une mobilisation extrêmement puissante, mais elle ne disparaît plus devant l'adoration. Et je finis par confondre la liturgie et l'adoration, ce qui n'est pas du tout la même chose. La liturgie, c'est communautaire, l'adoration, ça n'est jamais communautaire, au niveau religieux. C'est un acte spirituel dans ce qu'il a de plus personnel, donc ça ne peut absolument... C'est la part de l'esprit qui ne peut pas se mettre en commun, le lieu de l'adoration. Ça ne veut rien dire, une adoration communautaire au niveau religieux. Physiquement, je peux être dans la même pièce, mais j'allais dire, il n'y a rien à mettre en commun dans l'adoration, puisque c'est l'acte le plus ultime de la personne dont Aristote dit qu'on l'atteint que de temps en temps, et encore momentanément. Relisez ce que dit Aristote dans le livre 10 sur les moments exceptionnels où l'homme arrive vraiment à un véritable acte d'adoration contemplative. Ça reste un sommet au niveau religieux. Et donc l'attitude de l'homme, elle est plus dans une préparation perpétuelle à l'adoration que dans une adoration. Vous voyez, l'adoration perpétuelle, ça ne veut rien dire non plus au niveau religieux. Je tends vers l'adoration et j'y arrive de temps en temps, avec un minimum de disposition et affective et un minimum de disposition physique et un minimum de disposition intellectuelle. Enfin, vous voyez, c'est très ponctuel. Mais Aristote dit, ça suffit à finaliser une vie entière. Et avoir contemplé quelquefois dans sa vie, ça devrait suffire à justifier la vie humaine et la recherche de la contemplation. Alors, inutile de dire, on va le revoir, que la question est de savoir si le risque, si vous voulez, de dérapage n'est pas tel qu'il vaut mieux arrêter toute liturgie. Et ça, c'est tout à fait juste. Vous voyez, c'est la grande question de l'Inde, qui est la recherche de la sagesse n'a rien à voir avec la liturgie. Et j'allais dire, au fond, on le voit bien, le sage en Inde est celui qui quitte le niveau liturgique. Le niveau liturgique, si vous voulez, c'est le niveau communautaire qui est tout à fait primaire, quoi. Mais la véritable recherche de la sagesse, elle implique de quitter le symbole, donc de quitter la liturgie. La liturgie est de toute façon pas au niveau de la sagesse. Elle est au niveau populaire, si vous voulez. Donc c'est vraiment les rudiments de l'attitude religieuse. C'est purement pédagogique. Mais l'homme, dès qu'il est engagé dans une vraie recherche de sagesse, entre dans une solitude religieuse et laisse tomber la liturgie. Parce que c'est trop lourd à soulever, si vous voulez. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le rôle de l'art est précisément de servir de médiation entre la communauté et l'attitude religieuse. Vous voyez, la difficulté, c'est de trouver un métaxus entre l'attitude d'adoration, qui est une attitude volontaire personnelle, qui est liée à une recherche contemplative, et puis la dimension politique et communautaire, qui est très complexe, qui est très riche, mais qui, évidemment, qui n'est pas religieuse comme telle. Vous voyez, j'allais dire, la communauté, c'est d'abord du côté du genre, c'est pas d'abord du côté de la différence spécifique. Donc vous voyez, comment unir ce qu'il y a de plus pointu chez l'homme à la dimension communautaire? Ça va être le travail de l'art, hein, dans la liturgie. Alors, il faut distinguer, évidemment, l'art sacré ou l'art religieux de l'art liturgique. Pourquoi ? L'art sacré, c'est celui qui cherche à exprimer l'au-delà de l'homme, mais sans beaucoup de précision. Si vous voulez, c'est ce qui est ouvert à un au-delà de l'homme. Sans qu'on puisse lui donner de nom, sans qu'on puisse lui donner le nommer ou préciser ce qu'il est. L'art religieux, c'est celui qui correspond à une véritable attitude de recherche de sagesse religieuse, où j'exprime par le jugement de sagesse la manière d'exister de Dieu et le regard sur la créature. D'accord ? Donc l'art religieux, j'allais dire, il est plus déterminé que l'art sacré. L'art sacré, il est très flou, vous voyez ce que je dis. Il y a un art sacré africain, il y a un art sacré hindou. Dans presque toutes les civilisations, l'art, il est sacré. Il est très souvent, la plupart du temps là, pour exprimer l'absolu, pour exprimer ce qui est au-delà de l'homme, qu'il soit néfaste, qu'il soit démoniaque, ou qu'il soit positif, qu'il soit saint. Vous voyez, le sacré, il est ambivalent, souvent, dans les religions. L'art religieux, c'est pas l'art pieux, vous voyez, c'est pas l'art qui représente des thèmes religieux, c'est l'art qui me met en présence de ce qui correspond à un regard contemplatif religieux. Alors, la différence entre l'art religieux, Frère Marie-Dominique reviendra peut-être dessus, et l'art liturgique, c'est que l'art liturgique, précisément, il est tourné vers la communauté. Alors, il y a un art religieux qui peut servir à la liturgie, mais pas nécessairement. Vous voyez, l'art liturgique, j'allais dire, il est intrinsèquement pédagogique. Il n'est pas que pédagogique, mais il implique une dimension pédagogique. L'art religieux, il peut être ésotérique, si vous voulez. L'art religieux, il peut exprimer ma réflexion ou ma recherche de Dieu et n'être compris par personne. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas qualitatif. L'art liturgique, ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit compris par la communauté. Il faut qu'il soit accessible à la communauté. Ce qui est évidemment très difficile, parce qu'il ne doit rien perdre de sa simplicité, de sa perfection. Vous voyez, il est à la limite, quoi. Évidemment, c'est pas la caricature, vous voyez, c'est... On ne retourne pas à l'art grosso modo, parce que c'est liturgique. Non, non, non. J'allais presque dire, ça réclame d'aller encore plus loin. Vous voyez, c'est l'art religieux et l'art sacré doivent aller encore plus loin pour pouvoir être liturgique. Et le même artiste peut d'une part savoir qu'il fait une œuvre qui est une œuvre personnelle, et d'autre part faire une œuvre qui est une œuvre au service de la liturgie. Mais dans un cas, il sait que ça doit être accessible, un minimum. Alors, dans ces arts, on peut distinguer deux grands axes. Les arts qui sont plus directement liés au corps et à la personne, et les arts qui sont plus séparés du corps. On va voir qu'ils sont plus liés à l'univers. Alors, par exemple, l'art lié au corps, vous avez le geste, le chant, la danse, puis en face, vous avez la musique, la sculpture, la peinture, la fresque, la mosaïque, tout ça va ensemble. À la peinture, vous avez, qui correspond, c'est l'art du vêtement. C'est l'importance dans la liturgie, mais qui correspond, ça correspond. La danse est analogue à la sculpture, le vêtement est analogue à la peinture, et le chant est analogue à la musique. D'accord ? Et puis vous avez les deux arts de synthèse, qui est d'un côté l'architecture et de l'autre côté la célébration. L'art de la célébration, c'est la même chose que le théâtre, si vous voulez, mais au niveau sacré. Oui, c'est la mise en œuvre de la célébration, qui est analogue, si vous voulez, qui est entre le ballet, le théâtre sacré. C'est les deux extrêmes, si vous voulez, qui a pour but de mobiliser, d'agencer l'ensemble des arts, l'ensemble des personnes, pour permettre que chacun adore. Oui, c'est la disposition au cœur, c'est les déplacements dans le cœur, c'est les processions, c'est tout ça, l'art de la célébration. D'accord ? Dans l'art de la célébration, vous ne modifiez pas l'architecture. D'accord ? Ni les lois de la musique. Et vous, normalement, vous n'allez pas repeindre, enfin, vous pouvez à chaque fois faire des petits dessins et des posters, mais normalement, s'il y a des fresques dans votre église, vous ne vous amusez pas à mettre des posters par-dessus. Donc, ça, c'est des arts, la plupart du temps, qui sont fixes. Mais qui impliquent, une fixité et puis une... Qui sont plus ouverts vers l'univers, vous voyez, qui sont moins directement liés à la personne. Alors, je ne vais pas développer, mais ils ont des avantages et des inconvénients. Ceux-là ont l'avantage d'être plus proches de la personne, mais d'être plus fragiles. Parce que précisément, ils ont la personne comme instrument et comme matière. Donc, ils sont plus éphémères, ils sont plus fragiles. C'est sûr, vous pouvez avoir un vêtement qui est fait pour un petit gros, si vous êtes un grand maigre, vous voyez, c'est mal parti. Et il n'y a pas des chasubles à toutes les tailles, selon toutes les carrures. C'est des choses bêtes, mais vous voyez, c'est la même chose. Le chant, le jour où vous avez un rhume, vous voyez, c'est fini, ça s'entend. Alors que du côté musical, c'est complètement différent. Ça s'entend beaucoup moins. L'affectivité de celui qui joue au niveau musical est beaucoup moins sensible et il est beaucoup moins fragilisé que du côté du chant. Même chose du côté de la sculpture, genre, c'est clair, vous voyez, je veux dire. Alors que le mouvement, le geste et la danse sont extrêmement précaires à cause de la présence immédiate de la personne. Inversement, ceux-là, ils ont l'avantage d'être beaucoup plus fixes, d'être beaucoup plus, d'exprimer beaucoup plus, j'allais dire, le caractère intemporel du mystère. Mais ils ont évidemment l'inconvénient d'être plus loin de la personne, d'exprimer moins immédiatement l'engagement personnel. Alors, j'ai besoin des deux. On va le revoir parce que on le sait bien, notamment dans l'expression du mystère de l'être premier, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la liturgie, et l'expression du jugement de sagesse, il y a toujours à la fois un élément objectif, universel, et en même temps, il y a toujours un élément subjectif et personnel. Vous voyez ce qu'on est en train de travailler avec le Père Philippe. Dans le « je suis », il y a toujours à la fois l'extériorité et l'intériorité. Alors, ça ne veut pas dire que ça, c'est du côté de l'extériorité, hein. Mais ça veut dire qu'il... C'est des arts qui sont plus du côté de l'extériorité. La pierre, c'est extérieur. L'instrument de musique, il est extérieur à vous. La peinture, elle est extérieure, c'est l'élément extérieur, l'architecture aussi. Alors que là, c'est vous. L'intériorité est directement engagée. Alors, là, elle est engagée indirectement. Parce que pour faire de la musique, il faut avoir une âme. Pour sculpter aussi. Vous voyez, mais j'allais dire, là, l'âme, elle s'imprime sur la matière comme telle. Et laisse à la matière d'exprimer. Alors, il y a d'une certaine manière ici un caractère plus grand de victoire de l'esprit sur l'univers. C'est évidemment plus difficile d'exprimer avec finesse une intériorité contemplative dans la peinture, pas que le vêtement, parce que le vêtement c'est... Mais que dans le geste, par exemple. L'adoration, elle est plus difficile à exprimer dans une sculpture que dans un geste. D'une certaine manière, parce que il faudra que l'âme ait une maîtrise de la matière plus poussée pour pouvoir vraiment la rendre docile à l'inspiration. Donc vous voyez, ils se répondent. Alors l'important, c'est de voir qu'ils se répondent et que cela s'intègre dans l'architecture. Normalement, elle intègre et la dimension picturale et la dimension sculpturale et la dimension musicale. Vous ne pouvez pas avoir n'importe quel orgue dans n'importe quelle église. L'orgue est conçu en fonction de l'église, pas l'église en fonction de l'orgue. Et on sait bien, quand l'orgue est trop grand pour l'église, ça pose des problèmes. Là, c'est la même chose. D'accord ? La célébration, elle intègre... Là, alors, avec le vêtement, vous avez aussi... Vous avez des arts intermédiaires. Hein. Vous avez l'art des fleurs, l'art de l'encens, l'art du mobilier, les calices, les ciboires, l'autel, les stalles, tout ça. C'est entre les deux, ça. Et ça vient à la fois servir le corps humain. Il y en a qui sont plus d'un côté ou plus de l'autre. Par exemple, les fleurs, c'est plus de ce côté-ci.
Alors que l'estal, le calice, c'est plus près du corps humain. Donc, vous voyez, vous avez des intermédiaires. Alors, le chant, il est évidemment de ce côté-là. Et donc, c'est important de voir qu'il correspond toujours avec la musique. Il fait toujours face à la musique. On va essayer de voir comment. Alors, avant de parler plus spécifiquement du chant, c'est important de souligner que le chant, ni la parole d'ailleurs, ni même la musique, ne sera ce qu'il y a d'ultime au niveau liturgique. Ce qu'il y a d'ultime au niveau liturgique, c'est le silence et le geste. Pourquoi ? Parce que seul le silence exprime l'effacement. Vous voyez, pour que la musique et le chant manifestent le fait qu'ils s'effacent devant l'acte intérieur de l'adoration et de l'acte de l'esprit, ils ont besoin de disparaître. Et c'est précisément le rôle du silence. C'est pour ça que le silence, il est intrinsèque à la musique et au chant. Il est même leur achèvement, du côté de la liturgie. Normalement, j'allais presque dire, le chant et la musique doivent porter la personne et la communauté jusqu'au seuil de l'adoration, mais disparaître. Oui, je veux dire, j'adore pas en chantant. Au niveau religieux, on verra tout à l'heure au niveau chrétien. Et chose que je peux me permettre à cause de la grâce, que je ne pourrais pas me permettre sans. Oui, je crois que c'est important de voir que Et puis le geste, pourquoi ? Parce que c'est l'adoration. Donc c'est l'acte volontaire qui me mobilise le plus fort qui soit. Je dois, dans l'adoration, j'engage toute ma personne. Et l'engagement de ma personne, tout entière, elle est manifestée par le geste. Il n'y a que le geste qui est adéquat à la totalité de l'engagement personnel. La parole n'est pas... Vous voyez, la parole, elle est... Physiquement, c'est ponctuel, le chant. Ça mobilise tout mon corps, mais ça n'engage pas tout mon corps comme dans le geste. Parce que la parole, ce qu'analyse Aristote, la parole, elle part de la vibration de la voix sur le corps... de l'air sur le corps, et elle est ponctuelle, elle a une source ponctuelle. Donc, dans sa symbolique, elle n'exprime pas la totalité de la personne. Elle exprime son âme, c'est ce qu'on va revoir. Vous voyez, la parole manifeste l'intelligence, l'intériorité de l'intelligence et du cœur, mais elle ne manifeste pas l'engagement total. C'est le geste qui manifeste l'engagement total. Alors, si vous regardez bien dans une célébration, que ce soit l'ordination ou la profession perpétuelle, il y a à la fois la parole et le geste. C'est pour ça qu'on signe la cédule. C'est pour ça qu'on se prosterne par terre. Si c'était simplement un engagement verbal, ça irait pas. C'est comme dans le mariage, il y a aussi l'échange des alliances. Et on sait que le mariage, il n'existe que par le don des corps. La parole ne suffit pas. Ils ne sont pas mariés au terme de la célébration. Ils sont mariés par le don des corps. C'est la même chose du côté de l'ordination. Il n'y a pas simplement la parole, la prière consécratoire, il y a l'imposition des mains. Donc si vous voulez, et puis il y a la prosternation des ordinants. Il y a l'engagement au célibat, qui se manifeste par le pas en avant. Donc vous voyez, c'est important de voir que dès qu'il s'agit, la qualité de l'engagement est exprimée par la parole, mais la réalité de l'engagement est manifestée par le geste. Alors évidemment, si vous avez un geste sans parole, on ne sait pas ce que vous faites. Si vous avancez, on ne sait pas si vous avancez parce qu'on vous pousse, si vous avancez parce que vous êtes pressé d'aller à l'hôtel, ou si vous avancez parce que vous vous engagez. Donc la parole vient exprimer la qualité de l'engagement. Vous voyez ce qu'il a de spécifique. Il vient déterminer la qualité de l'engagement. Mais l'acte proprement volontaire, la volonté, elle est aveugle. Ce qui la détermine, c'est l'intelligence. La volonté, c'est ce qui mobilise la personne vers le bien. Et la mobilisation de la personne vers le bien, c'est le geste. Donc, d'une certaine manière, c'est important de voir que le chant, il est ordonné au silence et au geste. C'est pour ça qu'il y a la doxologie. C'est pour ça que normalement, on commence par le Fils et on continue par l'adoration. Ensuite, alors la particularité du chant et de la musique, c'est qu'ils sont liés à l'ouïe. L'ouïe, c'est le sens de la temporalité, donc du temps, du devenir. Et c'est surtout le sens de l'intériorité affective. Alors relisez ce que dit Aristote dans la Politique. Quand il montre comment est-ce que c'est par la musique qu'on éduque les passions. Et donc le chant, plus encore que la musique, va permettre d'exprimer le vécu spirituel ou le vécu affectif, ou le vécu instinctif. Il y a tous les degrés du vécu. Alors le vécu pas du tout au sens négatif, hein. Ça peut l'être, hein. On sait bien que le pathos du côté du chant, c'est pire que tout. Oui, ça, ça a une agressivité. Quelqu'un qui chante l'Ave Maria de Schubert, voyez, avec une espèce d'affectivité pour sa petite nièce, parce que c'est son mariage, ça peut vous foudroyer sur place, beaucoup plus que quelqu'un qui joue mal. Parce qu'il exprime, vous voyez, l'ambiguïté ou la lourdeur de son affectivité avec une puissance beaucoup plus forte. Donc si vous voulez, là aussi, c'est plus risqué. Encore une fois, c'est la qualité du chant, c'est l'expression du vécu intérieur. Mais tout dépend de la qualité de ce vécu. Et j'allais presque dire, les distorsions ou les disharmonies du vécu apparaissent immédiatement dans la voix. C'est ce qui est très, très, très pénible, c'est qu'on est à nu quand on est dans la voix. C'est qu'on voit tout de suite les distorsions du vécu. Et on va se poser la question de savoir ce qu'il vaudrait mieux pas se taire. C'est ce qu'on va voir. Alors, c'est aussi bien la détresse, pensez au psaume, c'est aussi bien la détresse que la joie. Que la stupeur, que la peur, que l'effarement, que oui, toutes les passions, toutes les modalités des passions, et la manière dont toutes les passions expriment l'aspect spirituel. Ça exprime aussi, pas simplement mon vécu ponctuel, mais mon histoire. Vous voyez, j'allais dire, le chant et la musique ont un mode narratif d'une certaine manière. C'est pas comme la peinture. La peinture, j'allais dire, elle peut pas raconter. Vous voyez, elle vous donne les choses. Ensuite, vous vous y rentrez progressivement. Le chant, il vous raconte. C'est le prof du chant oriental, si vous voulez. C'est dans le chant oriental, on s'installe avec son manger et son boire, vous voyez, puis on écoute et puis on rentre dans une histoire qui va durer, qui va durer, qui va durer. Le père Farmer, il dit souvent, on répète tout le temps les mêmes choses, puis on les redit, puis on les chante de 5 manières différentes. Et puis, enfin, on sait quand on y rentre, on ne sait jamais quand on en sort dans le chant oriental. Parce que c'est la manière, si vous voulez, on raconte. Et au bout d'un certain temps, ce qu'on raconte finit par nous habiter. Et on finit par entrer dans l'histoire qu'on raconte, qui est l'histoire de Jésus et de la Sainte Trinité et des anges et du ciel et des séraphins et des chérubins et des puissances angéliques. Et puis vous en avez, vous en avez, vous en avez. Et ça a pour but de vous faire rentrer dans un univers. C'est pas pour rien. Hein. Donc ça a un mode narratif. Moins du côté musical, mais même le mode musical a un mode narratif. Vous avez des thèmes qui reviennent. Au niveau pictural, ça revient pas. Pas du tout la même logique. Même au niveau architectural, je ne peux pas dire que ça revient. Ni au niveau du geste. Vous voyez, il y a quelque chose de très, du coup, de très pédagogique aussi dans le chant. C'est que du coup, je peux prendre mon temps pour faire venir les choses beaucoup plus. C'est pour ça que c'est évidemment un outil de décompression du monde et de l'agitation ou de l'engagement pratique à la contemplation qui est évidemment très efficace. Pas pour rien que l'office est le lieu de décompression où je passe, vous voyez, de l'activité tous les jours. J'allais dire à l'entrée dans l'adoration. Parce que je suis... Mon affectivité, normalement, vous voyez, elle est prise en main par le chant. Et elle doit trouver sa place, progressivement, pour s'intérioriser et aboutir au silence. Alors, si on se met à l'école d'Aristote, je saute, hein, vous voyez, à chaque fois, il faudrait développer un petit peu, mais c'est pour vous donner toutes les pistes. Aristote dit quelque chose de très astucieux dans la poétique. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais presque. Il dit qu'il y a trois choses dans l'art, le logos, c'est-à-dire l'intelligibilité, le rythme, rhythmos, et puis l'harmonie. Alors j'ai revu dans la politique, il redit que dans la musique, il y a le rythme et l'harmonie. Alors je ne développe pas pourquoi est-ce qu'il dit ça et comment est-ce qu'on retrouve ça dans tous les arts. Mais ça m'intéresse plus particulièrement du côté du chant, parce qu'évidemment, ça va parfaitement marcher. Dans le chant, vous avez la parole, qui est pas le logos, mais qui est plus directement liée à l'intelligibilité. D'accord ? Vous avez l'harmonie, qui est plus directement liée à l'élément musical. Alors, la musique, elle implique rythme et harmonie, c'est sûr. Hein. Mais dans le chant, ce qui est plus lié au rythme, c'est la voix. Avec la voix, pour être plus précis, la voix est ce qui fait le lien entre la musique et la parole. Pourquoi ? Parce que l'intelligibilité et la parole, elle est plus du côté personnel. Elle est plus du côté de l'universel, de l'intelligence. La musique, on va le revoir, hein, elle est plus du côté de l'univers, la musique. La musique, elle a quelque chose de cosmique. C'est la grande réflexion des pythagoriciens sur les nombres et la musique, qu'a repris le Moyen-Âge. La musique, elle a quelque chose de cosmique, pas la parole. La parole, elle est politique, la parole. Elle est du côté de l'homme, la parole. La musique, elle a quelque chose qui dépasse l'homme, elle a quelque chose de cosmique. Et la voix est ce qui permet, j'allais dire, de faire entrer l'homme dans la musique, et de faire entrer la parole dans la musique, et de faire entrer la musique dans la parole. Vous voyez, la voix, elle est intermédiaire entre la musique et la parole. La parole, elle vous est donnée. La musique, elle vous est donnée. La voix, c'est vous. Ah, c'est une distinction, hein, c'est pas une division. Parce que c'est évident que la parole, je l'ai dit qu'avec une voix. Et la musique dans le chant, elle est donnée par la voix. Mais voyez, la voix, c'est comme l'instrument. En musique, ce qui donne le rythme de la musique, c'est l'instrument. La musique, l'harmonie, si vous voulez, l'harmonie musicale, elle est préétablie. Vous la créez pas, là. Ça, il faudrait demander aux musiciens qui me confirment, mais l'harmonie musicale, elle est fixe. Elle m'est donnée. Par contre, je l'anime, l'harmonie musicale. Le rythme, il est marqué, mais le rythme, vous ne le faites jamais exactement comme il est marqué. Parce que le rythme, c'est vivant. Donc c'est vous qui le donnez, le rythme. Vous avez des grands guides. Mais autant vous respectez. On voit bien, nous qui sommes, enfin je parle pour moi, ceux qui ne sont pas très compétents du côté musical, l'harmonie musicale, ils la laissent à ceux qui sont compétents. Ils essayent de la retrouver après coup, de comprendre qu'il y a quelque chose. Mais l'endroit, j'allais dire, donc je vais pas la modifier, l'harmonie. Par contre, le rythme, je ne peux pas le faire par dressage. Ça ne s'imite pas un rythme, c'est ridicule, c'est mécanique si ça s'imite. Ça se redécouvre, parce que c'est l'endroit où l'instrument qui est mon corps, avec tout son organe vocal, vous voyez, s'insère dans la musique. C'est mon engagement dans la musique, la voix. C'est aussi mon engagement dans la parole. Si vous voulez, la grammaire française, on ne vous a pas demandé votre avis. Et quand on vous donne à chanter quelque chose, on ne vous demande pas de votre avis sur le texte. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, le texte. Par contre, c'est selon la voix, même chose, si vous vous mettez à répéter matériellement le ton qu'on vous a dit d'avoir, vous allez être pénible. Et donc la difficulté, c'est de vous engager personnellement dans la parole, en respectant ce qu'elle est. Comme de vous engager personnellement dans la musique, en respectant ce qu'elle est. D'accord ? Donc le chant, il va impliquer, j'allais dire, deux, si vous voyez, il faut avoir deux yeux, quoi. Et qu'on a, on va le revoir, plutôt... On a naturellement plutôt un penchant sur le lien entre la voix et la musique ou entre la voix et la parole. Ça dépend de chacun. Alors, c'est intéressant parce que je retrouve la structure du symbole. Saint Aristote est vraiment génial. Dans le symbole, vous avez trois éléments. Un élément de signification. C'est pour ça que le chant, c'est très très beau. Un élément de représentation, si vous voulez, l'outil de représentation. L'élément sensible, c'est l'harmonie musicale. Et vous avez un élément de présence, ce que le père appelle le secret. Dans le symbole, vous avez la signification, la représentation et la présence. Comme dans une icône, si vous voulez. Dans une icône, vous avez la Vierge Marie et l'enfant, ça c'est la signification. Vous avez les couleurs, la matière picturale qui la représente. Et puis vous avez la qualité de présence, qui fait toute l'icône d'ailleurs. Et c'est évident que l'élément déterminant de l'art est... Surtout dans l'art liturgique, c'est la présence. Vous voyez, puisqu'il s'agit d'exprimer le mystère de Dieu, de l'être premier, et qu'il s'agit d'exprimer un jugement de sagesse, c'est évident que la signification, vous voyez, elle est très pauvre. Dire que Dieu est, vous voyez, ça ne suscite pas beaucoup d'imaginaire. La représentation aussi, elle est limitée. Mais le lieu, vous voyez, j'allais dire, où d'une certaine manière, j'exprime le plus la qualité de ce que je contemple et de celui que je veux adorer, ou du regard que j'ai sur l'homme, c'est par la présence. C'est la qualité d'adoration de celui qui chante qui apparaît dans la voix. C'est la qualité contemplative de celui qui chante qui apparaît dans la voix. Dans la parole aussi, on va le voir. Hein. Dans la parole est exprimé l'élément plus théologique, ou l'élément de sagesse, il est dans la parole. quand vous chantez le prologue de Saint Jean, il y a de la signification. Vous voyez, c'est, j'allais dire, l'aspect philosophique, il est plus du côté de la, du contenu de la parole. L'élément, j'allais dire, de... Le génie avec lequel vous allez intégrer l'univers matériel, puisque c'est comme ça l'art. Donc le sens de la qualité sensible, il n'est pas là, il est là-bas. Il est du côté musical. La matière du chant, c'est le son. Bien, la logique des sons, ou l'harmonie cosmologique et humaine du son, c'est là que je le travaille. C'est pour ça que j'ai besoin d'entendre de la musique. Pour comprendre que la musique, elle a une, il y a une unité dans le monde sonore. Il y a une harmonie dans le monde sonore. Et cette harmonie dans le monde sonore est le reflet, ça c'est ce qu'avaient très bien senti les Grecs, de l'harmonie de l'univers. Ce qu'ils appelaient la musique des sphères. Pour eux, les astres, l'harmonie musicale cherchait à reproduire l'harmonie des astres. Et donc il s'agissait de par le chant et par le son, d'exprimer, si vous voulez, la formule de l'univers, si vous voulez, l'unité harmonique de l'univers. C'est très astucieux. Aristote dit, alors il ne se prononce pas sur l'univers, mais lui il parle de l'âme. Il dit l'âme est comme une harmonie, dit Platon. C'est pour ça que l'âme, elle est réharmonisée par la musique. Là, il y a quelque chose de très profond. Hein. L'univers, c'est un tout. Et c'est un tout qui n'a pas de substance, mais qui a une harmonie. Ça, c'est évident. Or, c'est clair que la musique, c'est une des tentatives d'expression de cette harmonie. Alors, ce qui voudrait dire que vous pouvez accentuer votre chant de deux manières différentes. Vous voyez, j'allais dire, vous pouvez incliner la pendule d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez accentuer le lien entre la voix et la musique. Vous voyez, et relativiser la parole. Et à ce moment-là, vous allez avoir un chant qui va plus exprimer la voix cosmologique de la découverte de Dieu. Vous voyez, l'aspect plus universel et objectif. Qui fait qu'au fond, c'est moins la signification de la parole dont vous considérez qu'elle est, si vous voulez, qu'elle est rapidement mise en situation limite, mais c'est plus la contemplation de Dieu présent dans l'univers. Il y a quelque chose de ça dans la musique. Et il y a un chant qui peut tendre plus vers ça. Et puis vous pouvez avoir un chant qui tend plus vers la parole. C'est-à-dire qui est plus attentif à une voie d'intériorité. C'est-à-dire à la recherche de l'homme à l'égard de Dieu. Vous voyez ? Alors, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Hein. Mais c'est important de sentir qu'il y a deux tonalités. Parce que c'est vrai que, comme toujours, l'aspect plus subjectif du lien entre la voix et la parole peut être à la fois très grand et très exaspérant. On le sait bien, si vous voulez, quand vous chantez les hymnes du PTP, il vaut mieux pas savoir ce que ça dit. On se porte mieux, si vous voulez. Mais si on se met à mettre une musique qui met en lumière ce que ça raconte, alors c'est vraiment l'horreur. Parce que déjà, c'est l'horreur comme telle, mais alors si en plus vous le mettez en musique, en accentuant la signification, vous voyez, ça devient horrible. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on gomme, vous voyez, que la musique noie complètement ce que ça dit. Alors la musique est belle, on ne sait plus ce que ça raconte, tant mieux. Et inversement, enfin, le frère Marie-Dominique vous en reparlera peut-être, mais j'allais dire, un texte, s'il n'est pas bon et qu'il est mis en lumière, c'est horrible. On a l'expérience, dans la communauté, on a eu l'expérience avec certaines antiennes de Magnificat du début, qui étaient splendidement laides. Je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est moi qui l'avais faite avec Persévère Marie. Donc c'était phonétiquement, c'était horrible. Et Magdalite a splendidement mis ça en lumière, c'est-à-dire que c'était carrément sur-horrible. C'est normal, elle a mis en lumière la musicalité originale du texte. Donc il faut comprendre le risque, et que dans certains cas, il vaut mieux carrément chanter avec une belle musique, puis tant pis pour les paroles. Alors, ça c'était pour la liturgie religieuse. La liturgie chrétienne. Avant d'entrer dans la liturgie chrétienne, donc c'est important de voir que la liturgie religieuse, elle est immédiatement mise en situation limite. Pourquoi ? Parce que la liturgie est le lieu dans lequel, à cause de la communauté et à cause de la qualité d'engagement qui m'est réclamée, je me heurte immédiatement à mes limites, personnelles et communautaires. C'est-à-dire que tout ce qui est limite dans la personne est mis à la loupe dans la liturgie. Mes limites corporelles. Vous avez les deux tiers des frères qui ne savent pas chanter correctement. Les limites affectives. Le chantre, il met, vous voyez, tout son pathos et son vécu. Limite spirituelle, je ne comprends pas ce que ça dit, et de toute façon, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas d'aller à l'office. Ça apparaît instantanément dans la liturgie. Et ça s'additionne, c'est-à-dire que comme toujours les phénomènes communautaires, les qualités s'additionnent pas, mais les défauts s'additionnent. Donc si vous voulez, la liturgie est le lieu où l'homme est beaucoup plus que partout ailleurs, mis en face de ses limites. Il n'a pas de capacité de compenser, il n'y a pas de compensation, si ce n'est l'idolâtrie et le dérapage. Alors on fait la fête. D'accord. Et dans toutes les liturgies, d'ailleurs, dans les trois quarts des civilisations, vous avez les pires des dérapages humains, c'est à propos de la liturgie. Ça finit en massacre, ou ça finit en orgie, ou ça finit... Il faut regarder les liturgies au niveau concret. Hein. C'est rare que ça tienne la route de manière correcte. Ça finit toujours mal, parce que vous mettez en œuvre la sensibilité communautaire, vous exaltez un peu le tout, puis ça explose. Et donc c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas une aide à l'adoration. C'est pas nécessairement un obstacle majeur, si vous voulez, mais... En plus, ça a le risque de vous conforter dans un espèce de formalisme. Vous allez à la liturgie et ça vous dispense d'adorer. Et en terre chrétienne, on a connu ces dérapages. Alors, c'est des dérapages moins du côté, vous voyez, on en connaît plus récemment aussi, des dérapages du côté de l'exaltation. Mais ça peut donner, vous voyez, des dérapages du côté du formalisme. C'est-à-dire qu'au fond, la participation à la liturgie me dispense d'un acte personnel. C'est typique du danger liturgique, ça. Alors que si vous enseignez uniquement l'adoration personnelle, ben j'allais dire, c'est clair que vous ne la vivez pas. Hein. Vous voyez, dès que vous allez donner un instrument qui va être la récitation d'une prière ou la participation à une cérémonie, ça vous dispense de l'adoration. Vous avez mis les pieds dans une église une fois par an, c'est comme si vous aimiez Dieu. Alors qu'au niveau de la vérité, c'est évident que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la liturgie chrétienne, c'est une liturgie qui est sauvée. Vous voyez, l'expérience que je fais dans la liturgie, c'est d'être sauvé. Et je ne suis pas sauvé sans avoir commencé par me reconnaître pécheur. Donc si vous voulez, la liturgie, c'est la chrétienne commence par la constatation de l'impossibilité liturgique. Et ça fait partie du réalisme chrétien. C'est-à-dire que je rentre dans la liturgie, dans la lucidité du fait que c'est impossible. Ni communautairement, encore moins personnellement. Comprenez, me mettre à chanter le prologue de Saint Jean ou je sais quel texte de l'évangile, je n'y comprends rien du tout à 14 ans. C'est ridicule de faire participer un enfant à la liturgie. Au niveau religieux. Comment voulez-vous qu'il y comprenne quelque chose du côté humain? Et donc c'est clair que la liturgie chrétienne, elle n'a de sens que parce que le Christ me le demande, c'est-à-dire que parce que le Christ m'en donne la grâce. Donc que parce que le Christ me sauve dans la liturgie. Et me donne la grâce que, dans la faiblesse qui est la mienne, qu'elle soit celle de mon âge, parce que je suis petit, de mes incapacités ou de mes limites, et des tares de ma communauté, j'allais dire, la grâce assume toutes les faiblesses humaines et est capable de les transformer en gloire. Donc si vous voulez, je ne rentre dans la liturgie chrétienne que par le mystère de la croix, que par la sagesse de la croix, et pas autrement. C'est pour ça que ce qui est au centre de la liturgie, c'est le mystère, la sagesse de la croix. Et évidemment, vous voyez, il faut que je me méfie énormément de la tendance à le gommer. Vous voyez, à me servir de la grâce de Jésus pour éviter de m'apercevoir qu'en fait, j'en suis pas capable humainement. Ça, c'est la tentation de la liturgie pseudo-glorieuse. C'est qu'on fait comme si on était déjà au ciel. En oubliant qu'on ne l'est que par grâce et en espérance. Vous voyez, j'allais dire, il y a une pauvreté et une humilité dans la démarche liturgique qui doit être d'autant plus grande qu'elle est chrétienne. Et si la liturgie chrétienne, j'allais dire, est possible, c'est pas à cause de l'homme, c'est à cause de la grâce. Et c'est d'autant plus que l'homme se laisse sauver par la grâce. C'est pour ça que la liturgie, elle ne se vit que dans l'adoration. C'est le propre de la grâce chrétienne, c'est de me permettre non plus de tendre vers l'adoration, mais de vivre dans l'adoration. C'est ça l'attitude chrétienne. Dans l'adoration du Christ. C'est-à-dire d'abord dans la charité. Je ne rentre dans la liturgie chrétienne qu'en me laissant habiter par le mystère de la charité divine. Il n'y a que la charité qui peut justifier ce que Dieu me demande de vivre. Cette charité, elle est à l'égard de Dieu, elle est à l'égard de mes frères. Et elle est inséparablement à l'égard de Dieu, à l'égard de mes frères. C'est-à-dire que la liturgie est un lieu essentiel d'adoration et de communion fraternelle. Et il n'est pas plus d'adoration que de communion fraternelle, mais pas plus de communion fraternelle que d'adoration. D'accord ? Il y a la même exigence d'amour de mes frères et d'amour de Dieu dans la liturgie. Donc évidemment, vous voyez, j'allais dire, là, la disposition naturelle qui est la célébration liturgique vient rencontrer le mystère divin. Vous voyez, l'unité entre la charité fraternelle et la charité divine, ça c'est proprement un mystère divin. Le fait que dans la liturgie, il y a la personne et la communauté, ça c'est proprement humain. Donc Dieu vient se servir de la liturgie. Et j'allais dire, la liturgie correspond à son mystère. Et donc c'est un lieu privilégié où le mystère de la charité s'accomplit. Vous voyez, il vient... C'est un outil préparé, tout préparé au mystère divin, la liturgie, dans lequel Dieu peut simultanément m'apprendre à l'adorer et à aimer mes frères, du même amour et avec la même intensité. Donc la liturgie est un lieu d'abord de communion à l'égard de Dieu et à l'égard de mes frères. Cette communion, son expression, c'est le corps de Jésus. Ce que dit très bien saint Paul, c'est le corps de Jésus qui nous c'est en communiant au corps du Christ que nous communions les uns aux autres. Le corps du Christ est le lieu d'unité des croyants entre eux. Le Christ fait entre nous l'unité par son corps, par son sang, dit même l'Écriture. Donc c'est la contemplation et l'accueil du corps et du sang du Christ qui fait l'unité de la liturgie. Puisqu'il n'y a qu'une seule... Si vous voulez, il n'y a qu'un seul art et qu'une seule expression adéquate au mystère, c'est le corps de Jésus à la croix.